Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien que nous soyons un peu en avance, vous êtes tellement nombreux que je ne voudrais pas vous faire attendre. C'est d'autant plus flatteur pour moi qu'il fait beau. S'il avait plu, j'aurais peut-être un peu mieux compris. Je regrette pour les conditions de confort qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Mais l'expérience montre qu'elles seront meilleures à la seconde séance et encore bien meilleures à la troisième. Donc, pour l'instant, nous en sommes là. Le cours est annoncé comme un bilan. Ce n'est pas seulement parce que c'est mon avant-dernière année de cours et que je n'ai plus rien à dire. En fait, le nombre de documents nouveaux qui apparaît et qui ont besoin d'être publiés est sans cesse plus grand. Et il y a de moins en moins de chercheurs, pour diverses raisons, capables de les publier ou qui acceptent de les publier. Car, comme vous verrez, nous sommes dans une époque où la publication des documents primaires ne permet pas aux chercheurs d'avoir une carrière satisfaisante, ce qui n'était pas le cas lorsque moi j'ai commencé ma carrière il y a environ 50 ans maintenant. Il y a encore beaucoup de choses et la partie du séminaire vous montrera un certain nombre de sculptures, certaines un tout petit peu connues et d'autres pas du tout connues, qui feront l'objet de ce séminaire cette année et probablement l'année prochaine. Le séminaire lui-même risque d'être très technique, mais pour des raisons de confort des auditeurs, il se fera dans cette salle. Ceux qui veulent rester resteront et ceux qui veulent partir partiront. D'ailleurs, vous pouvez le faire dès maintenant. Comme vous le savez, c'est le collège. Et comme d'habitude, dans ces cours, il n'y a pas de plan prévu à l'avance. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer. Et je commencerai toujours par des préliminaires qui risquent d'être un peu longs. L'une des différences entre la conférence formelle que je suis en train de faire et le séminaire, c'est que les questions ne sont admises que dans le séminaire. Donc, je vous prierai de suivre cette coutume, ce qui me permettra peut-être de finir mon bilan en moins de 2 ans. Alors, si ce bilan, ce n'est pas parce que je n'ai plus rien à faire et plus rien à dire de nouveau, pourquoi est-ce ? Eh bien, c'est une raison très simple. Quand un physicien ou un biologiste retourne sur son passé et se dit « qu'est-ce que nous avons fait depuis 10 ans ?» il y a des découvertes qui sont immédiates, qui sont connues de tous. Et effectivement, les perspectives scientifiques dans un certain nombre de disciplines, en particulier les disciplines dures, qui ont le bénéfice d'innombrables chercheurs, les chercheurs en physique et en biologie se comptent par centaines de milliers, et également de moyens financiers extrêmement importants, se voient immédiatement. Il suffit d'avoir fréquenté un peu les hôpitaux pour savoir que ce qu'on faisait il y a 10 ans en matière de cancer, par exemple, ne se compare pas du tout aux résultats que l'on obtient maintenant. Lorsqu'on fait la même chose dans les sciences humaines, et en particulier dans celles que j'ai l'honneur d'enseigner, c'est-à-dire l'histoire de l'Inde ancienne, au bout de 50 ans, on se demande ce que l'on a acquis. J'ai, par hasard, il y a une cinquantaine d'années, commencé à travailler sur Ashoka et sur Kanishka. J'ai lu depuis 50 ans à peu près tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est écrit sur ces deux personnages qui sont deux des empereurs les plus importants en Inde, en tout cas de ceux qui ont commandé le plus d'Indiens et qui ont eu sous leur pouvoir la plus grande surface de la péninsule indienne, eh bien, au bout de 50 ans, si on fait le résumé de ce qu'on a appris après avoir écrit des centaines, sinon des milliers de pages, et publié quand même pas mal de documents, eh bien, c'est à peu près rien sur Kanishka au bout de 50 ans. On sait maintenant qui est son père, mais on ne sait pas qui est sa femme, on ne sait pas s'il a eu des frères, on ne sait pas s'il les a assassinés pour aller au pouvoir, on ne sait pas s'il a eu des enfants et lesquels. On ne sait pas qui était autour de lui, on ne sait pas à quoi ressemblait son administration. Et bien que tous les 10 ans, on annonce qu'on a découvert quand commençait l'an 1 de Kanishka, en fait, on en est toujours au même point. Alors, évidemment, c'est un peu décevant. Sur Ashoka, qu'on connaît beaucoup mieux parce qu'il a laissé beaucoup d'inscriptions et qu'on en a encore découvertes dans les 20 dernières années, on n'en sait guère plus. Le fonctionnement administratif, économique et social de l'empire d'Ashoka, ça se résume en 3 lignes. Alors, cela tient au manque de documents, cela tient aussi au fait que les chercheurs dépendent des documents, mais cela tient aussi au fait que si l'on a une vue un peu plus large, eh bien, on a quand même d'autres perspectives. Et c'est pour cela que j'ai pris une vue plus large, c'est-à-dire que j'ai commencé à 1947. Car si on regarde ce qui s'est écrit, ce qui s'écrivait, ce qui se lisait en 1947 au moment de l'indépendance de l'Inde, et ce que les chercheurs maintenant savent, alors là, les différences sont fondamentales. Vous avez, quel que soit le manuel que vous utilisiez, qu'il soit en anglais ou en allemand ou en français, il est périmé pour les chercheurs. Les chercheurs qui sont au courant savent très bien qu'un manuel tout à fait remarquable comme le manuel des études indiennes de Renou et Filiosa, qui a été publié un peu après la guerre, et que j'utilise toujours chaque fois que j'ai besoin d'une première recherche, ce manuel est complètement dépassé sur tous les points précis. Et on s'aperçoit donc que finalement, à force d'amener chacun notre petit caillou, on a réussi à construire quelque chose, que ce quelque chose est extrêmement nouveau, et qu'il a, dans certains domaines, des implications contemporaines extrêmement grandes, parce que l'histoire, c'est toujours une branche de la politique contemporaine, même si on dit le contraire. Et il suffit de regarder, de lire les journaux indiens pour savoir que l'histoire ancienne de l'Inde est quelque chose d'aussi actuel que pour les Israéliens l'histoire ancienne de la Palestine, et y compris en Europe, sur certains sujets, l'histoire ancienne de l'Inde, c'est un domaine un peu actuel. L'une des expériences les plus désagréables de ma vie, ça a été un cours que j'ai donné ici et qui a eu un grand succès, qui était un cours sur les Aryas, qui a eu beaucoup, beaucoup de monde, et qui a eu beaucoup, beaucoup de monde, non pas parce que le cours était intéressant, mais parce qu'il y avait le mot « arien » dedans. Ce qui vous donne une idée de ce qui peut se passer. Donc, les historiens de l'Inde ne sont pas très nombreux. Il doit y en avoir de réels historiens de l'Inde, ça ne dépasse pas la 60aine. Ils sont dispersés, mais finalement, avec l'aide de collègues archéologues et d'autres collègues que je nommerai plus loin, ben finalement, on a fait quelque chose qui n'est pas inutile et qui, malheureusement, vous le verrez aussi au cours des leçons que je donnerai, a pour conséquence de séparer, parfois de manière radicale, une histoire occidentale de l'Inde de l'histoire de l'Inde telle qu'elle est pensée par les Indiens, y compris certes, la plupart des chercheurs indiens, ce qui pose un grand problème. Alors, la coupure depuis 1947, c'est à ceci, ça correspond évidemment à l'indépendance de l'Inde et à sa partition, les deux allant ensemble, puisque à partir de 1947, l'Inde qui était qui comprenait le Pakistan, l'actuelle République indienne qui a annexé le nord de l'India et le Bangladesh, cette Inde s'est divisée en trois. Vous verrez que la division est encore plus grande. Il y avait effectivement, avant cette indépendance, des historiens indiens tout à fait remarquables. Il y en a toujours, mais il y en avait avant l'indépendance. C'est quelque chose quand même qu'il faut créditer, dont il faut créditer les Britanniques, même s'il leur donnait une position subordonnée, comme je l'ai montré dans le cours sur les Gupta. En tout cas, ils ont réussi à salariés, à donner des postes à de très grands savants comme Bandarkar, comme Dissi Sirkar, comme Mukherjee, comme bien d'autres. Il y a eu une école historique indienne dont certains membres ont prolongé leur carrière après 1947. Mais ces historiens indiens d'avant 1947, même s'ils étaient tout à fait indépendantistes dans leur pensée, étaient quand même tout à fait soumis aux Britanniques et pouvaient difficilement se passer de l'approbation de leurs supérieurs, et en particulier de ceux qui dirigeaient les grandes institutions comme l'Archaeological Survey of India ou les grandes collections d'histoire. Il est bien évident qu'ils étaient en position secondaire et qu'ils fournissaient aux grands maîtres britanniques les matériaux que ceux-ci mettaient en œuvre pour leur propre agenda. À partir de 1947, l'agenda des jeunes chercheurs indiens, souvent d'ailleurs formés à Londres, grâce à des bourses ou à Oxford, à Cambridge, grâce à des bourses du Commonwealth, avec l'aide également de quelques grands professeurs britanniques comme Basham, qui a rédigé la thèse de beaucoup de ses étudiants, ils se sont donné un tout autre agenda, celle de construire une histoire de l'Inde qui ne justifie pas la colonisation britannique, qui rende à l'Inde non seulement son passé ancien que les Britanniques avaient respecté et valorisé, Ashoka a été extrêmement valorisé par les Britanniques, mais qui en plus réhabilite les années que les Britanniques avaient considérées comme en général les Européens, les années que les Britanniques et les Européens avaient considérées comme des années de décadence, c'est-à-dire quasiment tout le Moyen-Âge, à partir du 7e, 8e siècle, jusqu'à l'arrivée des Britanniques. Et cela a donné un certain nombre de résultats. Il y a eu, j'ai cité Romila Thapar, il y en a d'autres, il y a Biyen Chatterjee, Mukherjee. Il est évident qu'on a eu après 1947 une génération d'historiens nationalistes extrêmement bien formés et qui développaient une pensée tout à fait indépendante et tout à fait remarquable. Donc la perspective change. Au lieu que les Européens dialogue entre eux ou dialogue avec ceux d'entre eux qui étaient établis en Inde. Là, il y a un dialogue qui s'est établi entre historiens indiens et historiens européens, et malheureusement, une scission qui est en train de se produire. Quant au domaine couvert, vous le connaissez, c'est l'Inde, pour les historiens de l'Inde ancienne, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier, qui se voit très bien sur cette carte que j'aurai montrée pendant quelques années ici, qui est une terre qui est limitée au nord par une grande barrière montagneuse, celle de l'Himalaya et du Karakoram. Et si vous tracez des traits au pied de cette barrière, vous avez toute la surface de l'Inde telle qu'elle est pratiquée par les historiens, c'est-à-dire une partie de l'Afghanistan, tout le sud et l'est de l'Afghanistan, le Pakistan, la République indienne elle-même, le Bangladesh, il y a même une petite partie de la Birmanie, et de façon qui étonne toujours les gens, il y a, à mon avis, il y a Sri Lanka, jadis appelé Ceylan. Donc, et alors, ceci n'est pas justifié seulement par les couleurs de la carte, c'est-à-dire le fait que vous avez une opposition entre une grosse montagne au nord qui barre à peu près l'accès ou la sortie de la péninsule indienne, et puis qu'en bas, tout est vert et beaucoup plus bas. Ça correspond à un certain nombre de faits qui sont connus, qui sont la pénétration des langues dites indo-aryennes issues du sanskrit, qui, partant du nord-ouest, c'est-à-dire par là, hein, puisque ce sont... partant de cette région-là, puisque j'admets avec la plupart des linguistes qu'elles sont venues d'Asie centrale, par l'Asie centrale, et qui peu à peu, au cours du premier millénaire, ont conquis tout le nord de l'Inde, et puis juste maintenant continuent à avancer vers le sud de l'Inde, puisque même des langues qui résistent très bien, comme le tamoul ou le télougou, sont chargés d'emprunts au sanskrit. Et parfois, il y a même des calques linguistiques. Mais aussi important que la progression des langues, vous avez la progression d'un certain nombre de formes de pensée ou d'organisation de la pensée, que les ethnologues indiens à la suite de Srinivas ont appelé la sanskritisation, ce qui restreint ce domaine au brahmanisme et qu'on peut appeler l'indianisation parce qu'il y a bien plus que la progression du sanskrit et la progression de l'hindouisme et du bouddhisme. Il y a la progression d'un certain nombre de formes de pensée tout à fait analogue à celle de l'hindouisme, bien que très différente, et qui s'exprime en langues différentes. Il s'agit du bouddhisme, qui lui aussi a recouvert toute l'Inde en utilisant des langues qui au départ n'étaient pas le sanskrit, mais il s'agit aussi à partir du 8e siècle, du 9e siècle, de l'islam, avec une progression du persan qui a énormément influencé la pensée et les langues indiennes et encore maintenant se fait sentir malgré les difficultés politiques. C'est une des choses que je vous montrerai. C'est que la notion d'indianisation qui recouvre le titre de ma chaire, le monde indien, est quelque chose qui dépasse et de loin simplement celle de progression du sanskrit et du bouddhisme, bien que la progression du sanskrit et de l'hindouisme, pardon, c'est quelque chose qui est également tout à fait spectaculaire. Ce qui signifie qu'on ne tiendra pas compte pour la période dont je vais traiter, qui va à peu près jusqu'au 6e, 7e siècle de notre ère, des frontières modernes qui datent de 1947 et même pour certaines avec le Bangladesh de beaucoup plus récemment, parce que tout simplement ces frontières n'existaient pas à l'époque et ne signifiaient rien. Et on peut même d'ailleurs se demander si aujourd'hui encore la frontière entre l'Inde du Nord et le Pakistan signifie quelque chose. Ceci dit, étant un spécialiste de l'Inde du Nord, c'est surtout de cela que je vous parlerai en vous demandant de bien vouloir excuser que je vous parle très très peu et de l'Inde du Sud et du Sud-Est asiatique, sur lesquels j'ai quelques idées, mais une compétence, à mon avis, moindre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1947 ? Ce qui se passe en 1947, c'est la partition, donc justement l'apparition des frontières que vous voyez là. Et ces frontières sont devenues des frontières de pays qui, il faut bien le dire, sont en guerre les uns avec les autres. La guerre ouverte ou la guerre froide, ce sont des frontières fermées. La frontière avec le Pakistan est une frontière sépare deux armées prêtes à en découdre, avec des divisions blindées pré-positionnées et un risque permanent de guerre. La frontière avec le Bangladesh est un peu plus calme depuis que le Bangladesh s'est séparé du Pakistan avec un grand coup de main de l'armée indienne, mais elle est quand même fermée parce qu'il y a des problèmes de migration de Bengalis relativement pauvres venant du Bangladesh dans le Bengale indien qui est un peu plus riche, et également avec l'Assam. Il y a de gros, gros problèmes là. Il y a une situation de guerre civile, comme vous le savez, dans tout le nord-est de la République indienne. Donc, les forces de sécurité sont extrêmement importantes. Au nord, la frontière avec le Népal n'a pas bougé, mais les relations entre l'Inde et le Népal changent très vite. Et on peut dire qu'actuellement, avec un gouvernement maoïste à Katmandou, elles ne sont pas excellentes. Quant au la République indienne a annexé le Sikkim. Elle voudrait bien annexer le Bhoutan, mais apparemment c'est moins facile. Donc vous voyez que ce sont des frontières, et ce sont des frontières qui posent, qui sont des barrières. Il est extrêmement difficile pour un Indien, et le plus souvent impossible, d'aller au Pakistan. L'inverse est tout à fait vrai. Pour le Bengale, c'est un peu plus simple, mais c'est quand même assez difficile. C'est-à-dire que l'on a séparé en 1947 des gens qui, pendant des siècles et des millénaires, même avaient vécu ensemble. Et encore aujourd'hui, 60 ans après la partition, ont beaucoup de choses en commun, la langue, le goût pour la littérature, le goût pour un certain nombre de faits culturels, la danse, le film, etc., que la politique a séparé. Et l'interruption des échanges commerciaux a été de pair avec celle des échanges culturels. Mes collègues indiens, lorsque je vais les voir, me demandent ce qui se passe au Pakistan. Mes collègues pakistanais, eux, ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe en Inde. Mais il est évident que nous avons encore en Inde, d'ailleurs des gens qui sont encore vivants, des gens remarquables, et qui sont nés de l'autre côté de la frontière. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ça signifie que les historiens indiens de l'Inde ancienne n'ont plus d'informations de première main avec ce qui se passe au nord de la frontière. Ce qui s'est passé aussi en 1947, c'est que l'histoire indienne est devenue très politisée. Elle l'était avant. Évidemment, si vous regardez les manuels écrits par les Britanniques, on voit très bien que les grands auteurs britanniques avaient leur agenda politique, comme tout historien. Ça n'était pas, il n'y a pas de, enfin, un grand politologue qui, mort récemment, Edward Said, a écrit un livre sur l'orientalisme, où, qui d'ailleurs n'a pas grand-chose à voir avec l'Inde, où il reproche à la science européenne d'avoir vu l'histoire des pays qu'elle colonisait avec un œil européen. Je me demande comment la science européenne pouvait faire autrement. On ne peut pas s'arracher les yeux lorsqu'on étudie quelque chose, évidemment. Nos prédécesseurs avaient des préconceptions. Enfin, leurs préconceptions, parfois, ils les mettaient de côté. En tout cas, ils ont rendu à l'Inde un passé qu'elle ignorait complètement. Sans les Britanniques, personne ne saurait qu'Ashoka existait. Réellement, personne ne lirait leurs inscriptions, ces inscriptions, et personne ne connaîtrait Kanishka. On a quand même, l'histoire britannique a quand même restitué une part de l'histoire indienne avec une interprétation qui est la sienne. Et cette interprétation a été immédiatement saisie par les Indiens nouvellement indépendants. Il suffit de regarder le choix des illustrations de billets de banque où, en 1947, avec la colonne d'Ashoka ou les discours de Nehru, il est bien évident qu'en 1947, les dirigeants politiques indiens et les chercheurs indiens, qui d'ailleurs leur étaient liés, militaient pour une Inde fraternelle où toutes les religions pourraient coexister, y compris l'islam, puisque les dirigeants du Congrès ont refusé la partition et continuent de la refuser, et que tous les gens aient essayé de montrer que tous ceux qui vivaient sur le territoire de l'Inde étaient les enfants d'une seule mère, la mère indienne, comme dans l'hymne créé par Chatterjee. Par Mukherjee à la fin du 19e siècle, hein, Vande Mataram. Ça a duré quelques années, ça a donné quelques très beaux livres et un accent effectivement mis sur des périodes anciennes qui, de ce point de vue-là, en tout cas d'après les sources que nous avons, étaient des périodes de coexistence et des périodes de coexistence d'autant plus simple que l'islam n'était pas encore apparu dans toute sa brutalité. À mon avis, les Grecs étaient au moins aussi brutaux que les musulmans, mais comme on n'a pas de traces écrites, ça ne se voit pas. En tout cas, on a créé ainsi un passé de l'Inde cultivé et uni qui correspond à une certaine réalité, et qui allait très bien avec la politique officielle de l'Inde menée par Nehru et certains de ses successeurs. Mais il suffit de lire la presse indienne et d'avoir quand même un tout petit peu d'idée de ce qu'est la politique aujourd'hui en Inde pour savoir que face à la politique du Congrès, qui elle-même est devenue de plus en plus nationaliste, s'est agrandi un parti nationaliste, ce qu'on appelle le BJP, et que ce parti nationaliste a un tout autre agenda, puisque pour lui, pour résumer les choses un peu brutalement, il n'y a d'Inde que hindou, ce qui est facilité d'ailleurs par l'usage du hindi. Et qu'à partir de ce moment-là, se crée une histoire que les savants européens refusent, qu'un certain nombre de savants indiens refusent, mais qui a beaucoup de succès en Inde, qui est une histoire purement nationaliste indienne, où le seul élément de la civilisation, c'est la progression de l'hindouisme, à la rigueur du bouddhisme, de l'hindouisme en tout cas, et où tout ce qui n'est pas hindou et tout ce qui n'est pas autochtone est étranger, et étant étranger est, disons, au minimum de second ordre, et au maximum un ennemi qu'il faut extirper, et en particulier les musulmans. Ceci a donné lieu à une très abondante bibliographie pseudo-historique qui utilise des faits réels. La conquête musulmane et la domination musulmane ont été d'une brutalité absolument extraordinaire, mais qui fait l'impasse sur le fait qu'il y a quand même des millions de musulmans en Inde et qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 siècles et qu'on ne pourra pas expulser de l'Inde. Donc, désormais, dès que l'on écrit quelque chose en Europe ou aux États-Unis, il y a une réaction immédiate. Et la réaction immédiate, d'ailleurs, est moins le fait des Indiens d'Inde eux-mêmes que des émigrés indiens aux États-Unis qui redécouvrent l'hindouisme et qui utilisent l'Internet pour, non pas contredire ce qu'écrivent mes collègues américains, parce qu'ils ne lisent pas le français, donc moi je suis tranquille, mais non pas pour les contredire, mais pour demander l'interdiction. Tous les jours arrivent des demandes de procès, des nouvelles sur des demandes de procès ou des associations d'Indiens qui demandent que dans les livres scolaires, on rectifie ce qui a été dit sur la nature de tel ou tel dieu, sur la nature de la civilisation indienne, etc. L'histoire est en Inde à cause de ce renouveau de nationalisme très hindou, quelque chose de politisé et même dangereux. Ma collègue Romila Thapar, qui a été la plus grande historienne indienne d'après l'indépendance et qui est quelqu'un d'unanimement respecté, non seulement reçoit des lettres de menaces sans arrêt, mais quand le BJP a été au pouvoir, elle était quasiment aux arrêts dans sa maison. Donc, ça n'est pas simple. L'autre conséquence de la partition, c'est que, de façon très curieuse, les réactions à cette partition, qui, il faut le dire, est un non-sens du point de vue historique, même si ça correspond à quelque chose de politiquement inévitable, les réactions à cette partition ne sont pas du tout celles que l'on aurait pu attendre. Quand vous avez une catastrophe de ce genre qui se produit, songez à ce qui a pu se passer, par exemple, en Europe avec le rideau de fer, vous avez une énorme partie de la population qui réclame le retour à l'état antérieur et la disparition de cette séparation qui est vécue comme une spoliation. Or, quand vous allez au Pakistan, les Pakistanais, eux, ne tiennent pas du tout à revenir en Inde. Ils n'ont aucune volonté irrédentiste. Ils ne tiennent pas à récupérer des territoires indiens, sauf un territoire qu'ils ne considèrent pas du tout comme indien, qui est le Cachemire, qui est un territoire qu'ils ont toujours considéré comme le leur. Mais aucun historien pakistanais et aucun politique pakistanais n'a envie de faire sa capitale à nouveau de Delhi, qui a quand même été une capitale musulmane pendant plus d'un millénaire. On aurait pu croire que les Indiens voudraient récupérer le Pakistan. Il y a parmi les Indiens qui ont dû quitter le Pakistan, enfin ce qui allait devenir le Pakistan pour venir s'installer en Inde en 1947, pour ceux qui, en gros les Panjabis, il y a une nostalgie de leur jeunesse, des endroits où ils ont vécu, en particulier de villes qui, à l'époque, étaient des grands centres culturels et intellectuels comme Lahore. Ça se sent partout, ça se sent dans les romans. La blessure est toujours là. La blessure est toujours là, mais il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de désir de reconquérir ces terres. Par contre, il y a le désir de garder le Cachemire, et c'est un des grands problèmes entre le Pakistan et l'Inde. Le résultat de ceci, c'est que l'histoire nationale indienne, pratiquée par les Indiens, telle qu'elle est pratiquée maintenant par les Indiens, c'est une histoire qui ne se préoccupe plus du tout des territoires perdus, ni du Pakistan, ni du Bangladesh. Ces pays sont considérés comme étrangers désormais. Et les historiens indiens, sauf exception, et en particulier tous les jeunes, travaillent sur l'Inde du Nord indienne, sur l'Inde centrale, sur l'Inde du Sud. Les racines de l'histoire indienne ancienne qui se trouvent nécessairement au Pakistan, ça ne les intéresse pas. Personne ne travaille dessus, non seulement parce que ça ne les intéresse pas, mais aussi parce qu'ils n'ont pas accès aux documents directs. Mais même quand il y a quelqu'un qui vient leur parler de ça, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils ont vraiment accepté le fait de la partition, ils ont accepté le fait qu'il y a des frontières, ils considèrent que ces frontières sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles vont durer longtemps, et donc ils travaillent dans un projet nationaliste, qui est un projet indien, qui est de faire l'histoire de leur pays actuel, et non pas de leur pays tel qu'il était il y a 2000 ans, avant 1947. Il y a quelques exceptions, mais ce sont des exceptions très rares et qui concernent quelques individus et qui d'ailleurs ont à voir avec la fierté nationale indienne, avec un concept que les grands historiens bengalis ont créé au début du XXe siècle, qui est le concept de « the Greater India », la Grande Inde, et que je traduis par « le monde indien », qui est la constatation que l'Afghanistan, une partie de l'Ouzbékistan, toutes les terres tibétaines, bien entendu, bien qu'elles soient sous administration chinoise depuis au moins 6 siècles, le Bangladesh, mais surtout la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, en partie le Vietnam et plus loin que cela, l'Indonésie, toutes ces terres, à un moment donné de leur histoire, et en particulier entre les environs de notre ère pour le nord de l'Inde jusqu'à l'arrivée des musulmans et pour les autres, en gros, entre le 5e siècle de notre ère jusqu'au 10e, toutes ces terres ont tellement été influencées par la civilisation indienne, qu'elles soient portées par des moines bouddhistes ou par des brahmanes hindous, qu'elles font partie de la civilisation indienne et qu'elles ont même fourni à la civilisation indienne un certain nombre de ses plus beaux monuments et de ses plus belles réalisations. C'est ainsi que s'explique le fait que nos collègues indiens, au moment où les Français ont laissé le domaine d'Angkor tomber en ruine parce que le président de l'époque du Cambodge, qui est celui qui est maintenant d'ailleurs, mais le président de l'époque du Cambodge ne leur plaisait pas, eh bien, les Indiens ont envoyé une expédition à Angkor qui a permis quand même de sauver Angkor Wat, en tout cas de l'empêcher de tomber entièrement. Et c'est ainsi que les Indiens ont restauré les Bouddhas de Bamiyan avant qu'ils soient définitivement détruit par les talibans. Ça concernait quelques personnes haut placées qui avaient la nostalgie de cette grande Inde et qui avaient le bras assez long pour demander à l'Archaeological Survey of India d'entamer ces restaurations. Mais dans les faits, ceux qui s'occupent de la Grande Inde actuellement sont plutôt des étrangers dans mon genre. Ce qui s'est passé aussi après 1947, c'est l'explosion démographique. L'explosion démographique, vous savez que probablement l'Inde actuellement dépasse le milliard d'habitants. Je ne sais pas exactement combien elle avait d'habitants en 1947, mais ça ne devait pas dépasser 500 millions. Alors, ça signifie deux choses, cette explosion démographique. La première, c'est qu'il faut nourrir les gens et il faut les loger. Donc, il y a une énorme pression foncière, et cette pression foncière porte sur les sites les mieux placés. Et les sites les mieux placés sont en général des sites qui sont également des sites archéologiques, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'eau, une certaine hauteur, etc. Il y a eu, dans tous les pays, un développement des fouilles clandestines, même dans les pays qui, comme l'Inde, ont gardé un service archéologique qui fait ce qu'il peut. Mais c'est absolument impossible dans un pays qui se développe, y compris en France, il est quasiment impossible de stopper des fouilles archéologiques, d'autant que l'art indien est devenu à la mode et qu'il y a un marché d'antiquités extrêmement florissant et qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Un petit Bouddha du Gandhara comme ça, pas très beau, dans une vente, ça vaut 800 000 dollars. Et à côté de cette explosion démographique, encore plus forte au Pakistan qu'en Inde, qu'en République indienne, à côté, il y a eu en République indienne une explosion universitaire, car les dirigeants de la République indienne ont créé partout des universités. Et dans toutes ces universités, comme il est normal, on a enseigné l'histoire nationale indienne. Il y a eu donc dans toutes les universités plusieurs chaires d'histoire. Alors que lorsque les Britanniques ont quitté la Grande-Bretagne, l'Inde, il n'y avait guère en Inde que 5 ou 6 grandes universités avec quelques chaires. Désormais, il y a des chaires partout. Et au moment où nous en sommes, en 2009, nous en sommes à la deuxième, sinon à la troisième génération d'historiens indiens, c'est-à-dire des historiens qui n'ont pas du tout été, dont beaucoup n'ont pas eu de contact avec les universités occidentales et ont été formés sur place, et qui parfois n'ont été formés qu'à partir de livres en langue locale, c'est-à-dire en hindi ou en tamoul. Alors, ça change beaucoup de choses, vous verrez pourquoi. D'abord parce que la production a augmenté, mais aussi parce que la production est devenue de qualité inégale. Par contre, en Europe, il n'y a pas eu de multiplication de chaires. Il y a eu, pendant un temps, dans les années glorieuses des 70-80, il y a eu beaucoup de création de chaires de langue. Il y a toujours des créations de chaires de langue, en sanskrit moins, mais en hindi beaucoup, en tamoul quelques-unes. Mais par contre, pour l'histoire, il n'y a pas eu de création de chaires. Il n'y a quasiment aucune création de chaires en Europe, en tout cas pour l'histoire ancienne. Et on en est resté à peu près au même niveau, avec au contraire, depuis 4 ou 5 ans, une suppression dans tous les pays, de la majeure partie des chaires d'indianisme classique. Et je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Quand je partirai du collège, je pense que l'indianisme qui il sera enseigné, s'il y est enseigné, il sera un indianisme peut-être un peu plus récent que celui dont je parle. Ceci, évidemment, fait une grande différence parce que les chercheurs européens et américains, russes, se connaissent tous. C'est une vingtaine de personnes dans le monde, guère plus. Et sur ces 20 personnes, il y en a 10 qui se connaissent très bien et qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Il y a des rivalités. Mais on s'échange des documents, on s'estime, on se déteste, mais en tout cas, on se connaît et on se lit. Mais par contre, moi, je ne connais pas les chercheurs indiens et les chercheurs indiens ne me connaissent pas du tout. Et c'est la même chose pour les collègues américains ou les collègues britanniques. Malgré l'avantage de la langue, il y a si j'ose dire, une barrière du fait que les priorités sont tout à fait différentes. Les priorités indiennes, européennes ou américaines sont des priorités de curiosité. On a des documents qu'on ne comprend pas et puis on essaie de les comprendre. Ou alors on aime le pays, on se trouve un sujet de recherche pour avoir l'occasion d'y voyager. Mais en général, les Européens et les Américains n'ont aucun objectif politique maintenant quand ils étudient l'histoire de l'Inde. Ce sont, d'une certaine manière, ce qu'on appelait au XIXe siècle des antiquaires, des gens qui s'intéressent au passé et qui essaient de comprendre ce qu'il y a devant eux. Les Indiens, c'est tout à fait différent. Eux, ils sont en train de construire l'histoire de leur pays et un pays n'existe pas sans son histoire. L'histoire est la colonne vertébrale d'un pays. Regardez ce qui vient de se passer en France avec le débat sur l'identité française. Le débat sur l'identité française, c'est un débat sur ce que l'histoire a apporté à la France aujourd'hui. Et on ne parlerait pas de la laïcité comme base de l'identité française s'il n'y avait pas eu non seulement les guerres de religion, mais aussi tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle en France. Donc les perspectives sont différentes, les sujets d'intérêt sont différents, les documents, comme j'aurai l'occasion de vous dire, venant surtout du Pakistan, d'Afghanistan et d'Ouzbékistan, ce sont ceux qui intéressent les Américains et les Européens. Les Indiens, ça ne les intéresse pas du tout. C'est quelque chose qui est en dehors de leur pays. Par contre, les Indiens s'intéressent plus ou moins à la période médiévale, qu'ils ont longtemps appelée celle du féodalisme, et aux interactions entre les souverains hindous et l'islam. La population hindoue et l'islam, qui intéresse un peu moins les Européens. Encore que, de ce point de vue-là, on peut dire que la situation n'est plus du tout celle que décrivait Saïd dans Orientalism, encore une fois pour des pays qui n'étaient pas l'Inde, c'est-à-dire de savants européens imposant à un pays et à l'histoire d'un pays qui n'est pas du tout le leur, des cadres idéologiques qui leur étaient propres. Les Indiens, les historiens indiens sont des gens qui connaissent parfaitement, en tout cas pour certains d'entre eux, les préoccupations idéologiques des Européens, leurs présupposés, et qui parfois les partagent. Et d'un autre côté, les Européens, en tout cas en Grande-Bretagne, ont un peu changé l'orientation de leurs études. La Grande-Bretagne, qui a été un grand foyer d'études sur l'Inde ancienne, actuellement, c'est un foyer d'études sur l'Inde contemporaine, c'est-à-dire l'Inde du XVIe, du XVIIe siècle, surtout du XVIIIe et du XIXe siècle, parce que c'est un peu l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est l'histoire de la colonisation britannique. De même qu'on voit de temps en temps en France un livre de 400 pages sur Pondichéry, donc on ne peut pas dire quand même que l'existence de Pondichéry ait changé la face de l'Inde. De ce point de vue-là, il y a eu des changements. Mais ce qui me frappe, moi, c'est surtout la distance intellectuelle qui se crée, parce qu'il y a non pas une différence d'intelligence, mais il y a une différence de moyens dont je reparlerai, et il y a surtout une différence de perspective, qu'est-ce qu'on veut faire. Et si cet orientalisme de Saïd a disparu, si le racisme implicite dans ce que Saïd dénonçait a, à mon avis, disparu, pas toujours, mais il a quand même en grande partie disparu, malheureusement, inversement, il a été remplacé par le nationalisme en Inde. Je vous en ai parlé. Et ce nationalisme est un nationalisme qui, malheureusement, est religieux, puisque les Indiens, comme les musulmans d'ailleurs, ne séparent pas leur histoire de celle de leur religion. C'est un nationalisme anti-musulman et qui, malheureusement, a des relents racistes. Et je le dis très clairement, puisque je suis en France, si j'étais en Inde, je le dirais peut-être un peu moins clairement. Mais ce qui... L'une des choses, moi, qui me fait le plus peur, dont j'ai parlé ici, dont je ne reparlerai pas, c'est qu'un certain nombre de chercheurs indiens, qui sont moins des historiens que des biologistes, se sont emparés des découvertes sur l'ADN pour essayer de retracer l'évolution indienne ancienne de la population, et n'ont eu aucun mal à prouver, parce que ça se manipule très facilement, ces données d'ADN, qu'évidemment, la population la plus pure en Inde, c'était celle des brahmanes les plus orthodoxes. Et ceci, vous avez tous les ans, deux ou trois, quatre études sur le peuplement originel de l'Inde. Vous avez des contre-études dravidiennes qui s'opposent à l'hégémonie des brahmanes. Et la science, en tout cas une science mal digérée, est en train d'essayer de séparer les gens en fonction de l'origine prétendue de leurs ancêtres il y a 5 ou 6 millénaires. Bon, ça arrive aussi de temps en temps en France. Hein. Mais enfin, en France, quand vous avez une étude sur la population basque, ça ne met pas en cause l'attachement des provinces basques à la France. Quand cette étude est en espagnol, ça a peut-être un autre sens. Donc ça arrive. Et puis, il y a aussi, depuis quelques années, une résurgence de problèmes politiques qui étaient déjà connus à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le refus des gens de l'Inde du Sud d'être considérés sur un pied qui n'est pas tout à fait d'égalité avec ceux de l'Inde du Nord, puisque le pouvoir politique, depuis plusieurs centaines d'années, est quand même au nord plutôt qu'au sud. Donc, vous avez une histoire qui, de ce point de vue-là, est extrêmement politisée. L'autre désavantage qu'il peut y avoir, c'est la multiplication des informations. Alors, la multiplication des informations, elle est double. La première, c'est qu'il y a eu des découvertes, parce qu'il y a des services archéologiques qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui fonctionnent. Il y a des universitaires ou des archéologues qui publient ces découvertes. Et, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de découvertes de hasard qui arrivent à Londres ou qui arrivent au Japon et qui finissent par arriver entre les mains des savants européens parce que ce sont les seuls qui savent lire les inscriptions actuellement. Et ça fait beaucoup d'informations qui est extrêmement dispersée et qui n'est jamais triée. Et par la même Et vous avez une autre source d'information sur laquelle je reviendrai, qui est la production universitaire. Mais vous avez une énorme masse d'informations à laquelle vous n'avez accès que par vos relations personnelles. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui habite un archéologue qui habite en Ouzbékistan, si vous n'avez pas la chance d'y aller et de voir ce qu'il y a dans son bureau, vous ne saurez jamais exactement ce qui s'est trouvé. Parce que la découverte peut avoir été signalée, mais les précisions, vous ne les aurez pas. Si vous n'allez pas en Afghanistan regarder un peu ce qui se passe à Bactre ou à Bamiyan, vous ne saurez pas beaucoup ce qui s'est trouvé. Ou alors il faut aller au Japon pour savoir ce que font les Japonais à Bamiyan. Et c'est la même chose au Pakistan, mais c'est la même chose en Inde. Vous avez des inscriptions qui sont publiées, je reviendrai là-dessus, dans des revues qui sont absolument introuvables en France, mais qui sont également introuvables à Delhi ou à Bombay ou à Calcutta. Il y a une énorme production d'informations. Cette production n'est pas triée, parce qu'il y a beaucoup de faux, et elle n'est pas rassemblée. Et ceci a été accentué par l'apparition de l'Internet, puisque vous avez dans l'Internet toutes sortes de choses qui se publient et qu'on a beaucoup de mal à vérifier parfois. Et ça a été également accentué, beaucoup plus d'informations, par l'existence maintenant de textes électroniques. C'est-à-dire que toute une série de textes qui avant n'étaient utilisables que dans des livres imprimés se trouvent maintenant en version électronique. Alors c'est très pratique, ça permet en particulier en utilisant des fonctions de tri, des fonctions d'annexation, de retrouver facilement un certain nombre de choses, mais pour l'instant, c'est également très délicat à utiliser, d'une part parce que les logiciels utilisés pour la numérisation de ces textes ne sont pas tous les mêmes. Ces textes sont produits indépendamment par des monastères pour les textes bouddhiques ou par des religieux hindous pour les textes hindous. Le serveur, on ne sait pas combien de temps il va durer. Il y a bien une entreprise européenne à Tübingen qui recense tous ces textes électroniques, mais qui est incapable de donner une idée de l'exactitude de ces copies. Ces textes électroniques, ça peut être deux choses, un scan, c'est-à-dire une photo, donc là, il n'y a pas de problème, sauf qu'on... Le scan vous reproduit le livre électronique ou la revue, mais vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'indexation. Mais le plus souvent, vous avez des transcriptions, c'est-à-dire que le texte a été retapé à la machine. Et quand le texte est retapé à la machine, vous ne savez pas s'il a été bien retapé, s'il a été censuré ou pas. Et le résultat, c'est que lorsque vous faites une recherche d'indexation dessus, vous avez de grands risques, ou bien tomber sur des renseignements qui ne sont pas exacts, ou bien de perdre des renseignements. Alors, c'est quelque chose qui est apparu depuis une dizaine d'années et qu'on ne sait pas encore très bien utiliser. Je pense que dans 10 ou 15 ans, les choses seront un peu normalisées, mais pour l'instant, ça pose un certain nombre de grands problèmes. Et... La deuxième chose, comme il est 27, j'en parlerai tout à l'heure. Enfin, j'en parlerai la semaine prochaine.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.